Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des AP Talk, avec beaucoup de beurre dedans, puisqu'il s'agit de l'épisode dédié à Jeffrey Cagne, chef pâtissier de la maison Storer.
Le pâtissier marque une période de la vie de chacun. C'est-à-dire qu'on marque la période des anniversaires, des bûches, des communions, des mariages, même une fin de repas, un repas en famille. Donc c'est en fait, on rentre dans la famille, on rentre dans la vie de chacun.
Les AP Talk, ce sont des enregistrements live et gourmands imaginés en partenariat avec les Galeries Lafayette Champs-Élysées qui ont lieu dans le food court chaque deuxième mercredi du mois à l'heure de l'apéritif. Si ça vous met l'eau à la bouche, rendez-vous là-bas le 12 février à 19h15 pour tout savoir du chocolat Alain Ducasse avec le chocolatier Quentin Francis Guénieux et le designer Pierre Tachon à l'origine des créations cacaotées de la manufacture. Après avoir été formé chez Storer, Jeffrey Cagne en est devenu le chef pâtissier il y a 4 ans à la demande de la famille Dolphy, propriétaire d'Alamère de famille qui a racheté l'enseigne. Depuis, il veille sur le répertoire classique de ce temple du sucré, fondé en 1730 par l'ancien pâtissier du roi Louis XV. Avec bon sens et humilité, il ne cesse d'apporter du sang neuf à cette pâtisserie ancestrale où furent inventés le baba au rhum et le puits d'amour, pour en faire, au-delà de l'institution intemporelle, une adresse bien dans son époque. Avec Jeffrey, nous avons parlé de galettes des rois, de gestes pâtissiers et de rêves d'enfants. Bonne écoute. Bonsoir Jeffrey, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer autour de ces alléchantes galettes des rois. Ça sent bon le beurre et la frangipane dans le food court ce soir. Odeur que tu m'as dit adorer. T'es plutôt épiphanique, Noël ?
Ouais, parce que en fait, tout simplement, je trouve que l'épiphanie, déjà, on est sur une base de feuilletage, et le feuilletage, c'est la vie, parce qu'en fait, le beurre, c'est la
carrément.
Vie.
Carrément.
Ouais. Bah, dans la frangipane, il y a 50% de beurre quand même, et le poudre d'amande qui est déjà grasse.
Attention, tu vas faire peur.
Bon, après, en même temps, tout le monde sait que les gâteaux, ça fait pas maigrir, donc je pense que j'apprends rien ce soir. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que l'épiphanie, je suis fan de galettes parce que déjà, j'ai eu toutes les galettes à mon anniversaire. Ça fait 26 ans. Non, j'ai pas 26 ans du tout. Ça va faire 34 ans que je me tape des galettes à mon anniversaire parce que je suis du mois de janvier, donc en fait c'est vraiment toute ma vie. Et c'est vrai que la frangipane c'est la vie, le feuilletage c'est magique. Je trouve que en fait on doit avoir une stabilité au niveau des produits presque pendant 15 jours parce que c'est vrai que les pâtissiers on garde généralement 15 jours les galettes, on les fabrique tout le long du mois de janvier. Et voilà, on est sur une pâte vivante, une pâte qui vit, qui bouge au four, et on n'est pas sur une masse gélatinée, une mousse. Voilà, on est vraiment sur presque une viennoiserie. Et c'est pour ça que voilà, je suis plus épiphanie.
Il y a un plus grand savoir-faire pâtissier dessus.
Parce que tout simplement, on est sur de la farine, sur une matière qui vit. Ça dépend en fait. Si la farine est plus sèche, on doit rajouter un peu plus d'eau dans le feuilletage, ce qui permet d'avoir un feuilletage différent à chaque. En fait, le feuilletage vit. Tout simplement, donc en fait le travail du tourrier, parce que c'est vraiment le travail du tourrier, il y a un vrai travail de savoir-faire sur toutes les pâtes, et notamment le feuilletage.
Et c'est plus difficile de faire une bonne galette que de faire un bon gâteau ?
Ben, c'est toujours plus difficile de faire quelque chose de très simple qu'un gâteau compliqué en fait.
On peut pas tricher.
Ben, sinon il y aurait des bonnes galettes partout.
Et vous en faites énormément, tu m'as dit.
Oui, on en fait énormément, on en fait énormément, voilà. On en fait énormément, mais ce qui ne change pas, en tout cas, la qualité, parce que c'est pas parce qu'on fait de la quantité qu'on ne doit pas faire de la qualité. Et nous, en fait, Le but, c'est qu'on regarde chaque produit qui sort du four comme si c'était encore le premier bébé, voilà, qui sortait. Et que c'est important, voilà, de maîtriser chaque produit qui sort du four, même si on en a 10 000.
Alors, le secret de ta galette, c'est des amandes, une pâte d'amandes blanchie. Alors, ajouté à la frangipane et du rhum.
On fait fabriquer une pâte d'amande blanchie, tout simplement. En fait, c'est de la pâte d'amande qui est mixée, en fait, en gros, pour faire une pâte lisse. Et on rajoute ça à notre frangipane.
Et un petit un peu de sucre, non, pour caraméliser. Alors, aussi.
Alors dedans, en fait, tout simplement, une frangipane, c'est quoi? C'est du beurre. C'est ça, c'est un temps pour temps. Hein. C'est autant de beurre que de poudre d'amande, que de sucre. Voilà.
Que des bonnes choses.
Il y a un peu de crème pâtissière, de la farine, du rhum, et on y ajoute cette pâte d'amande.
Et je disais, sur le feuilletage, tu mets un petit peu de sucre.
Le feuilletage, non, en fait, non. Après, en fait, en sortie de cuisson, on met un sirop à 30. Donc, un sirop à 30, c'est 50% de sucre, 50% d'eau. Donc, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de beurre.
C'est ça, le côté un peu voilà. Caramélisé.
C'est ça, c'est ça.
Bon, avec cette horreur, c'est un peu « je t'aime, moi non plus », parce que tu es arrivé, reparti plusieurs fois de la maison.
Cette horreur et moi, c'est une longue histoire d'amour qui dure depuis assez longtemps. En fait, faut savoir que quand je suis arrivé sur Paris, c'est la première maison qui m'a ouvert ses portes pour finaliser mon apprentissage.
Après donc, 60 refus,
après 60 refus, ouais, bah, c'était un peu compliqué à croire que j'avais pas une tête qui plaisait à tout le monde. Donc, et en fait, ouais, ça fait quatre fois que je reviens chez Storer. Quatre fois
que tu que tu pars et que tu reviens.
Ouais, c'est ça. Il paraît que c'est ça l'amour.
Donc t'es attaché à la maison?
Je suis très attaché à cette maison parce que c'est une maison qui a une âme. Et ça, c'est important déjà. On s'y sent bien et c'est une maison qui a le mérite d'être connue, non seulement parce que c'est la plus ancienne pâtisserie de Paris, mais elle est bourrée d'histoire. Et en fait, quand une pâtisserie est bourrée d'histoire, en fait, il y a eu un passage incalculable de personnes qui sont passées et qui ont justement laissé un petit peu leurs pattes. Et en fait, on retrouve ça en fait chez Storer avec ses gestuels, avec ce savoir-faire qui est vraiment artisan. et c'est ça qui a un côté vraiment, on va dire, majestueux de cette maison.
Donc toi, t'avais pas vraiment choisi.
Et en fait, tout le monde m'a fermé ses portes et, et j'ai commencé mon apprentissage. Voilà, il y a 15 ans là-bas. Et c'est vrai que, comme ils m'ont ouvert leurs portes, je suis rentré dans cet univers.
Tu rêvais d'être pâtissier quand t'étais petit?
Alors pas du tout. J'étais gourmand. Ça veut dire que je mangeais beaucoup, mais j'étais non. Mon rêve, c'était pas forcément d'être pâtissier. C'est devenu entre autres une voie de garage après l'école.
Après la troisième.
Ouais, parce que j'étais tellement bon à l'école que il fallait que j'aille vers l'artisanat. Comme mes professeurs me disaient que j'étais trop intelligent, bon, je me suis dit je vais faire des gâteaux. Je suis tombé amoureux de ce métier quand j'ai commencé à faire des stages. J'habitais Troyes, j'ai commencé chez Pascal Café, dans une petite boulangerie aussi de quartier à Troyes. J'ai fait mes
Pascal
deux stages
Café,
de
Pascal Café qui est meilleur ouvrier de France. Ouais.
Voilà. Et après, c'est vrai que je me suis dit, mon frère était tapissier décorateur au Compagnon du Devoir. Moi, j'ai remplacé le P par le T, et voilà, je me suis dit, pourquoi pas la pâtisserie.
Donc t'as commencé à Troyes et après t'es venu pousser les portes à Paris c'est là que t'es arrivé chez Storer.
C'est ça.
Et ensuite à cette époque, je veux dire, t'avais des pâtissiers, des gens que t'admirais, qui te faisaient un peu rêver.
Oui, on était tous. Moi, j'étais admiratif de pas mal de pâtissiers, notamment Christophe Michalak, parce que c'est un peu la génération qui a fait monter notre métier. Il y avait Pierre Armé, Conticini. Moi, j'étais fan aussi de Christophe Felder parce qu'il a fait quand même, je crois, les meilleurs best-sellers de la pâtisserie au niveau des bouquins. Il y en a plein d'autres, même Laurent Janin, qui était une étoile brillante au Bristol. Il y avait une multitude de pâtissiers qui nous faisaient rêver. C'était beaucoup moins mis en avant qu'aujourd'hui. Mais voilà, en interne, nous, on avait, entre autres, que le Journal du Pâtissier. C'était le seul magazine existant.
C'était
le seul magazine existant qui existait. Et en plus, qui n'était même pas disponible pour tout le monde, en fait. C'était que pour les professionnels. Donc, en fait, c'était le seul lien qu'on avait pour voir ce qui se passe un petit peu. Moi, notamment, parce que j'étais Troyes et que je suis passé par Avignon, sur la capitale, on voyait ce qui se passait avec le Journal du Pâtissier.
Tu regardais les pages, ça te faisait rêver.
Je regardais les pages, ça me faisait rêver. Je me disais peut-être qu'un jour,
tu seras dedans.
Non, mais en fait, en plus, c'est vrai
c'était
que
c'est très,
non, mais mon rêve, c'était tout simple. En fait, je me suis dit que le jour où j'arriverais à serrer la main de Christophe Michalak ou de Pierre Armé, j'aurais réussi ma carrière. Non, mais c'est fou. Alors que c'était pas grand chose en soi, mais j'ai même plusieurs anecdotes où j'arrive au Salon du Chocolat à l'époque et je les vois. J'étais comme si j'avais vu
Ronaldo.
Pour toi, peut-être Céline Dion, mais.
Non.
non, mais j'étais comme un fou. Et c'est vrai que pour nous, c'était tellement pas à notre portée, alors que bon, c'est des gens comme toi et moi qui sont simplement pâtissiers et que c'est à la portée de tout le monde, mais ouais, c'est vrai que c'était pour moi c'était un peu les pères quoi.
Et quand tu vas au Salon du Chocolat aujourd'hui, t'as des petits jeunes qui rêvent de te serrer la main sans doute.
Oui, je vis ça très simplement parce que je me dis que c'est rien du tout en soi, parce que ça reste que dans le milieu. Ça a peut-être un petit peu changé maintenant avec les médias, mais ouais, ça me fait un petit baume au cœur parce que moi j'étais à leur place il y a 10 ans quoi, et je courais après les chefs pâtissiers comme si j'avais besoin de leur signature sur ma veste quoi.
Tu fais volontiers des selfies quand on t'arrête.
Ouais. Je fais des selfies.
T'avais un plan de carrière dans la tête?
Non, j'avais pas de plan de carrière. Bah, je te l'ai un peu dit. Moi, j'avais réussi ma vie quand j'aurais serré la main à ces chefs-là. Donc, mais en fait, le plan de carrière, il se fait automatiquement. Ça veut dire qu'on a toujours besoin de plus. Comme en fait, c'est un métier où mine de rien, on est des perfectionnistes et on a toujours envie de plus. Et le métier évolue très vite. Bah voilà, le plan de carrière, c'est d'avancer et de faire le plaisir. Encore plus de monde, de former beaucoup de gens, parce que mes équipes sont très importantes. Sans elles, je ne serais rien du tout. Et en tout cas, cet horaire n'aurait pas le mérite d'exister si les équipes n'étaient pas là tous les jours, parce qu'il faut savoir qu'ils se donnent beaucoup de mal. Et puis même sans la famille Dolphy qui a repris, la maison cet horaire, en fait, c'est pas juste moi, c'est une totalité de personnes qui font que la société avance et qu'on avance dans le bon sens et qu'on donne de plus en plus de gourmandise, qu'on avance dans le sens même de la communication, dans beaucoup de choses, et qu'on continue à écrire l'histoire, et c'est important.
Pour revenir sur tes différentes expériences, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement, parce que t'es passé au Delica Bar chez Yamazaki, que je connaissais pas.
Ouais, bah en fait, toutes les expériences que j'ai faites m'ont apporté énormément parce qu'elles étaient complètement différentes. Mais c'est vrai que j'en retiens deux. Il y a notamment ma première expérience après cet horaire, ça a été Delica Bar. Pour moi, Sébastien Godard, c'était un génie d'avoir fait de monter ce snack chic avec Hélène Samuel, parce que ils avaient au bon marché et ils étaient en avance. Ils étaient sur une multitude de produits en fait. Il faisait 3 produits, un légume, un chocolat et un fruit. Et c'était la même forme. Il faisait aussi du salé. C'était le pâtissier qui faisait aussi du salé. Donc je trouvais ça intéressant et intelligent parce que c'est un peu notre origine aussi.
C'était il y a 15 ans, faut revenir aussi en arrière.
Il y a 15 ans, et puis il y a 15 ans, il y avait tous les produits japonisants, c'était un peu la mode du japonais. Donc on utilisait le Inko, le Kinako, le Matcha, tous ces produits qui arrivaient d'Orient. Et c'est vrai que c'était une super expérience, parce qu'en plus de ça, au bout d'un an, il m'a mis au bout de peut-être 5 mois, un petit peu à la recherche et développement avec eux. Et en fait, j'ai appris une multitude de recettes, parce qu'on faisait peut-être 40 ou 50 essais de crème dans la journée, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à avoir la justesse au niveau du gélifiant, au niveau du sucre, au niveau des œufs, au niveau de la farine, au niveau d'une multitude d'ingrédients. Et ça m'a aidé justement à me construire après sur mes recettes.
Et après, c'est juste après que t'as eu ta première place de chef.
Alors ma première place de chef. Alors j'ai repris la place de second chez Storer. Et après ça, j'en suis reparti. J'ai pris la place de chef chez Yamazaki.
Ta première place de chef.
Ensuite chez Ediard, place de la Madeleine, qui malheureusement a fermé et qui avait une très belle histoire aussi, parce qu'il fallait savoir que c'était quand même la première épicerie de Paris et le premier importateur de fruits exotiques sur Paris. Donc c'était notamment son emblème qui était l'ananas, parce que c'est Ferdinand Ediard était le premier à avoir apporté l'ananas en France. Et voilà, en fait, je suis resté 2 ans, et l'appel de Jean-François Piège pour travailler au Tout Mieux pendant 2 ans. Et là, ça a été une expérience encore différente, mais juste magique, parce que Faut savoir que travailler avec un chef cuisinier de ce talent-là, qui est une encyclopédie du goût, m'a apporté une certaine fragilité dans les desserts, quelque chose justement de rajouter de la fleur de sel, de rajouter un zeste de citron qui va dessucrer le produit, de travailler sur des produits beaucoup plus fragiles, parce que le restaurateur travaille sur du minute et nous on travaille pas sur du minute, on travaille sur des produits qui vont être faits le matin et vendus jusqu'au soir. Donc c'est vrai que apporter cette fragilité dans les desserts, c'est intéressant, et ça, il me l'a apporté.
Et t'as fait des allers-retours aussi entre la pâtisserie de boutique et la pâtisserie de restaurant.
Oui, parce que justement, en fait, c'est cette fragilité qu'on n'a pas forcément dans la pâtisserie de boutique, parce que c'est vrai qu'on fait le dessert minute et on l'envoie et le client le mange tout de suite, c'est de l'instantané. Et chose que nous, on ne peut pas faire, ou en tout cas plus difficile à maîtriser, parce que le client prend son gâteau, on ne sait pas ce qu'il va faire entre temps en arrivant chez lui, il faut qu'il se balade dans sa boîte.
La boîte.
Ouais, surtout que des fois je vois les clients qui prennent les gâteaux et qui retournent les gâteaux, la boîte à l'envers. Ah, c'est logique. Mais parce que c'est vrai que nous on n'a pas tous la même vision du gâteau, on se dit bon, le gâteau il est solide, il va tenir. Mais c'est vrai que le pâtissier le sait parce que c'est lui qui le fabrique. Mais des fois on sait pas forcément que le gâteau est beaucoup plus fragile.
Des messages de plainte. Regardez,
voilà, ça m'arrive de voir les clients qui mettent les gâteaux, la boîte renversée, et je me dis, à mon avis, ces gâteaux, non, ça m'exaspère pas, mais je me dis, le pauvre, ces gâteaux vont arriver renversés.
Dans un sale état.
Ils vont arriver comme une tarte à tatin, à l'envers. Voilà.
Et t'as choisi la pâtisserie boutique, alors?
J'ai choisi la pâtisserie de boutique, mais en fait, je pense que c'est l'accomplissement de tout pâtissier, je sais pas si tu remarques, mais en fait, tous les pâtissiers de restaurant qui un jour, en tout cas, veulent créer leur identité, ouvrent une pâtisserie.
Mais pourquoi?
Parce que tout simplement, on n'est pas derrière un chef cuisinier. On est notre propre chef. Et tout chef pâtissier de restaurant restera toujours derrière un chef de cuisine en soi, parce que on a une entrée, on a un plat et on a le dessert, mais on va dire que
t'arrives en dernier.
Déjà on va pas au restaurant juste pour manger un dessert, c'est rare.
Il y en a très peu.
Mais on va surtout dans un salon de thé pour manger un dessert. Ouais. Mais on se dit pas, je vais me faire un restaurant juste parce que je suis pressé d'arriver au dessert. Non, on se dit parce qu'on a envie de manger une entrée, un plat, et on se dit peut-être le dessert.
Peut-être, si voilà. J'ai encore faim.
C'est pour ça que la plupart des restaurants, ils vendent entre 50 et 60% de dessert. C'est pas à 100%. Ouais.
Et c'est pas tant sur la forme que sur ce que t'expliques. C'est pas la forme de la pâtisserie boutique qui fait.
Non, mais on a notre propre identité. C'est un challenge, en fait, c'est une régularité à voir matin, midi et soir sur la pâtisserie de boutique. Et c'est la différence. Maintenant aussi, ça vise tout le monde. Tout le monde ne peut pas aller au restaurant. En tout cas, tout le monde peut venir acheter un gâteau chez nous.
Je pense que ça explique aussi beaucoup l'engouement de la pâtisserie aujourd'hui.
Je pense,
c'est
un luxe accessible. C'est un luxe accessible et pour tout le monde. Ouais. Ça veut dire pour la personne matinale qui se réveille pour un petit croissant ou un pain au chocolat, et pour tout en fait, pour un gâteau, pour un gâteau individuel, un gâteau d'anniversaire, pour tout.
Ça fait combien de temps que t'es revenu chez Storer?
Ça va faire 3 ans.
3 ans que la famille Dolphy, 3 ans que représentée par Steve, t'a rappelé pour.
3 ans en tout cas qu'elle me fait confiance, et je remercie, parce que c'est vrai que de faire confiance à quelqu'un pour gérer une pâtisserie, ou en tout cas ça, c'est quand même une grosse pâtisserie maintenant, parce qu'on a quand même 5 points de vente avec la mère de famille, la fusion de la mère de famille Storer, et voilà, on se donne du mal, et merci pour leur confiance, parce que
t'as pas hésité quand ils t'ont appelé?
Non.
Ça tombait un bon moment
non,
pour toi aussi?
Non, parce que, en fait, j'ai toujours, même, je ne dirais pas du mal des anciens, parce qu'ils ont cru en moi aussi, les anciens propriétaires. Donc, la preuve, ils ont, quand la famille Dolphy
a...
ils m'ont rappelé plusieurs fois, et quand la famille Dolphy a repris la maison Storer, c'est eux qui leur ont parlé de moi. Donc, eux aussi m'ont porté à leur manière. Mais en fait, c'était un challenge nouveau, parce que je savais qu'entre guillemets, ils avaient envie de développer la maison Storer et de créer une autre identité et d'avancer, de continuer à écrire l'histoire. Donc, j'ai pas hésité.
Et ces deux maisons historiques, donc la plus ancienne,
donc la plus ancienne chocolaterie de Paris,
et la plus ancienne,
1761
et 1730.
30. Voilà.
Donc 290 ans pour
290 ans, ouais. Ouais.
Pour Storer. L'année prochaine,
ouais, ouais. Bah, cette année, ouais.
Donc des maisons historiques qui sont logiquement mariées et ensemble, vous avez réveillé cette belle endormie. Vous bah, faites
on l'a réveillée, enfin, elle dormait pas,
elle dormait pas, mais vous l'avez boostée encore.
Mais on la booste et je pense que la fusion des deux maisons, parce qu'il y a une réelle énergie aussi chez la mère de famille. En tout cas, la famille et tous les gens qui l'entourent, notamment même toute la communication, se donnent beaucoup de mal pour la mère de famille.
Pour surveiller.
Et c'est vraiment non, mais c'est vraiment une. Ils m'ont payé hein, pour tout ça. Non, mais c'est vraiment aussi une autre maison magique qu'ils ont développé avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de d'âme. Que je parlais d'âme tout à l'heure, c'est que en fait, on va dans n'importe quelle boutique de la mère de famille et on s'y sent bien. Et je pense que c'est important.
On a l'impression que la gamme, elle a toujours été comme ça, qu'on voit les vitrines derrière ou dans la boutique. Mais en fait, vous avez vraiment changé beaucoup de choses quand vous avez repris ensemble.
On a changé. On a donné un petit nouveau look au gâteau. On a changé pas mal les recettes parce que aujourd'hui, on est dans l'ère du moins sucré. Et ça, c'était important aussi, des sucrés, sans retirer des classiques, comme notamment, on a l'Alibaba, le Baba Nature, le Baba Chantilly, le Puy d'Amour, qui n'a jamais changé.
Ça, c'est les recettes qui sont là depuis 1730.
C'est les recettes qui sont depuis 1730. Depuis 1730, ces recettes sont là.
Il y a quoi? Il y a le
Baba,
le Puy d'Amour.
On a la bouche à la reine, on a le Puy d'Amour, on a le Baba. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Et t'as resserré la gamme aussi, t'as enlevé quasiment la moitié des références.
Bah, c'est pas que j'ai retiré la moitié, mais il y avait des références entre guillemets qui ne servaient pas à grand chose. Donc en fait, on a retiré pour se concentrer. En fait, vaut mieux avoir peut-être pas 50% parce que c'est pas ce qu'on a retiré, mais au moins 30% de moins pour se concentrer et se concentrer vraiment sur nos acquis en fait, et pas partir dans tous les sens. Maintenant. On va développer, donc.
Vous allez en remettre.
Non, mais c'est toujours difficile de retirer des produits parce qu'on s'attache aux produits et c'est difficile même. Non, mais c'est vrai que c'est un peu nos bébés quoi. On les a fabriqués, on a pensé et tout. Et c'est vrai que quand on les retire, en plus il y a des gens qui nous disent, ah ouais, mais vous l'avez retiré, je l'aimais bien. Ouais, mais attendez peut-être l'année prochaine, mais ils ont pas envie d'attendre. Donc ouais. C'est vrai qu'il y a une frustration des deux côtés. Donc c'est toujours plus difficile. C'est facile d'en rajouter, mais c'est plus compliqué d'en retirer.
Et la tarte aux fraises des bois, tu me disais aussi. Bah,
la tarte aux fraises des bois, très dur. Bah, c'était dur pour les gens, mais il faut savoir que voilà, on vendait de la fraise des bois toute l'année, vendue sous serre, et puis la fraise
des
bois.
Aujourd'hui, c'est en saison. Enfin, vous la retrouvez.
On la retrouvera en saison. Et il y a des produits qu'on a. Il nous reste qu'un seul produit qu'on a envie de retirer en saison. Et on va attendre un petit peu et puis on va le retirer aussi. Et voilà, et après, on n'aura que des produits de saison.
Et vous faites tout, exploit, dans le labo, derrière la boutique.
Tout derrière la boutique. Ouais. Tout
ce qui
derrière
est assez
la boutique.
Fou, parce que c'est un peu un labyrinthe
je trouve que c'est génial derrière la boutique parce que on peut répondre aux clients facilement, on peut répondre aux vendeurs facilement, on peut même passer en boutique...
En deux secondes, passer la tête
pour dire, eh ben voilà, pourquoi pas parler aux clients. Je trouve que c'est important en fait. Et puis il y a les odeurs. Ouais. C'est-à-dire que quand on caramélise les puits d'amour au fer chaud, en fait,
toute
ça fait un fer à 600 degrés.
Le sang.
Et en fait, ben non, mais ça crée une fumée de sucre et c'est magique parce que ça rentre dans la boutique. Mais on est combien? On est une vingtaine de pâtissiers. Et qui savent faire tous les jours.
Tous les jours. Ouais. Et même vous faites les 2-8, tu m'as dit.
Ouais, enfin, on fait les deux, certaines saisons. On fait les 2-8 parce que faut savoir que par exemple sur un feuilletage, il y a un temps de repos. Il y a entre tous les tours, il y a au moins 6 tours, donc il y a à peu près 5-6 heures de repos. Donc l'équipe du matin, elle va justement pétrir la pâte, commencer à poser la pâte, et après l'équipe de l'après-midi va faire les feuillets, va faire ses tours, et puis on va avoir un feuilletage magique en fin de course quoi.
Puis il faut s'organiser pour sortir combien de galettes par jour.
Faut s'organiser, je sais pas, je calcule plus trop, mais parce que le but c'est pas de calculer. En fait, les chiffres c'est pas non plus la vie.
C'est énorme. Enfin,
oui, c'est énorme, mais en fait c'est des objectifs. Maintenant, en fait, on ne fera jamais plus que la possibilité qu'on fera en fait pour la qualité. Ça veut dire que à un moment, quand il y a plus, il y a plus.
Tu me parlais aussi, quand on préparait cet entretien, du geste du pâtissier auquel tu es très attaché.
Parce que je crois que le geste, c'est vraiment... le pâtissier doit avoir le geste de la poche. Et en fait, je me bats un petit peu pour ça, pour tous les produits qui sont pochés chez Storer, parce qu'on a... Faut savoir que l'éclair est poché, le Saint-Honoré a le pochage avec la chantilly, même dans une galette, on poche la frangipane en spirale à l'intérieur. Et en fait, la poche, c'est l'outil numéro un du pâtissier, en fait. Et je me bats un petit peu contre tous les moules, entre guillemets, en silicone, on en a très peu. Quand on regarde notre gamme, on a très peu de moules en silicone, en fait, et tous les produits sont finis vraiment à la main. Et c'est ce qui crée vraiment l'artisanat aujourd'hui, c'est qu'on a on a le geste du pâtissier, et c'est pour ça qu'on a ces petites irrégularités. Mais je trouve ça presque mignon, parce que d'un pâtissier à un autre, le pochage de la rosace, par exemple, sur une forêt noire, parce qu'elles sont derrière toi, sera pas le même du jour au lendemain. Mais bon, est-ce que le client, ça va lui changer le goût? Je pense pas. C'est juste que ça montre bien qu'en gros, le pâtissier va y mettre tout son âme, tout son amour, pour tous les jours satisfaire tout le monde.
Et c'est pour ceux qui ont déjà essayé à faire de la poche, c'est pas facile.
C'est pas évident, mais c'est pour ça qu'entre guillemets, on se donne même des petits challenges avec ça au labo avec mes équipes. D'ailleurs, je commence à devenir de plus en plus vieux, parce que ils commencent tous à gagner.
C'est vrai.
Ouais, mais c'est
vous non
mais
des
c'est
concours,
mignon.
Vous non, mais
on fait
des concours,
on fait des concours,
vous chronométrez.
Mais en fait, tout simplement parce que ça vient de quoi, en fait. Quand moi j'étais apprenti, moi j'ai toujours une âme de challenge, même si je suis pas sportif. Enfin, très peu sportif, mais pas du tout même. Au boulot, en fait, on était à l'époque plusieurs apprentis, et en fait, on calculait le temps de celui qui
pochait
le premier,
le
pochage, finir les éclairs en premier, parce qu'en fait, on se disait celui qui arrive en premier, c'est celui qui va apprendre quelque chose de nouveau en premier. Donc c'était notre challenge, parce qu'en fait, plus tôt on finit, plus tôt on apprend. Et c'est ça qui était, c'est un peu comme les niveaux dans un jeu vidéo, sauf que là, en fait, c'est, les niveaux en pâtisserie, c'est plus vite tu vas finir tes éclairs au chocolat. Ça veut dire que si à 9h tu les as pas finis, tu vas être encore dessus. Alors que le mec, il va soit pocher les éclairs après, soit pocher des macarons, soit lancer des nouvelles recettes que t'as pas lancées, et ça fout la rage quand on est apprenti. Donc, et comme j'aimais pas perdre, en fait, il faut savoir que tous les après-midi, je faisais semblant, et ça, je le dis rarement, je faisais semblant de partir avec tout le monde, et je revenais au labo, et je disais au patron, donc notamment aux anciens propriétaires, est-ce que je peux m'entraîner? Il me dit, vas-y, entraîne-toi, fais ce que tu veux. Bon, entre-temps, de temps en temps, il me demandait des gâteaux pour envoyer en boutique, donc ça l'arrangeait. Et du coup, je m'entraînais des fois jusqu'à 10, 11 heures du soir, sur de la pâte à choux, mais toujours la même. Et le lendemain, le mec, il me disait, mais comment hier, tu savais pas? Ouais, hier, c'était hier. Et je voulais pas montrer aux autres que j'étais faible là-dessus, mais je m'entraînais tout seul.
T'entraînais?
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est bon, tu maîtrises?
Je sais pas si on maîtrise pas tout parfaitement, mais en tout cas, je me suis donné du mal pour maîtriser.
C'est un truc de répétition, quand même.
C'est un truc, ouais, c'est de la répétition,
enfin, beaucoup de gestes. Non,
Mais chaque douille change le geste.
Bon, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est le questionnaire aller-retour.
Allez, on est parti.
Ton âge?
Encore 33, mais bientôt 34.
Ta pâtisserie préférée?
C'est la tarte citron.
Et ta pâtisserie signature?
La tarte citron.
Ah, d'accord.
Non, en plus, ma pâtisserie préférée, j'en ai deux. J'adore aussi l'éclair au café. Mais la tarte citron, comme c'est le dessert préféré de ma maman, en fait, je me suis toujours donné un challenge sur la tarte citron.
Le cuisinier ou pâtissier que tu admires le plus aujourd'hui?
Alors, en cuisinier, je pense que je l'ai cité tout à l'heure, Jean-François en fait partie, parce que, comme je disais, c'est une encyclopédie et qui m'a fait confiance. Et en pâtissier... plus ça va, plus années, c'est Christophe Elder.
Ton ingrédient préféré?
Mon ingrédient préféré, mon ingrédient préféré, j'ai la vanille et j'ai le citron vert, voilà.
Ton ingrédient détesté?
J'en ai très peu. En fait, déjà, à la base, je mange tout.
Truc que t'aimes pas cuisiner ou pâtisser ou...
Je suis tellement gourmand qu'en fait je mange tout vraiment. Y a rien que je n'aime pas. Non, je crois qu'en soi j'aime.
T'as le droit à un joker. Ton ustensile fétiche?
La poche.
Justement. Ah. Ta dernière meilleure pâtisserie?
Je peux parler de confiserie?
Oui.
Bah parce que j'ai découvert le praliné pignon de pain.
Ah. à la mère de famille.
Oui, qu'ils n'ont pas, qu'ils avaient fait juste temporairement et en fait c'était une vraie révélation chez la mère de famille. Voilà.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Je préfère qu'on dise que je sois gentil. Voilà. Tout simplement.
Et la pire critique?
La pire critique? Oh, ça va rester entre nous parce que c'est ma femme, ça.
Tu continues d'être gourmand, de manger des gâteaux?
Ouais.
Ou...
ouais. Alors, les gâteaux, on les goûte. Mais c'est vrai que le pâtissier mange plus salé que sucré. Donc, je suis très gourmand au niveau salé, mais de moins en moins sucré. Ouais.
Et le côté hyper traditionnel, classique, c'est dans les gènes de Storer, mais est-ce que c'est dans les tiens aussi?
En fait, à force de revenir, c'est devenu les miennes parce que, de toute façon, pourquoi la pâtisserie classique, c'est tout simplement, c'est intemporel. Et je sais pas si tu remarques, mais c'est comme la mode, ça revient toujours au classique. Et tous les pâtissiers trentenaires se battent que sur les classiques, en fait. On arrête d'aller, on cherche pas. Je pense qu'on cherche pas à révolutionner la pâtisserie, juste on apprivoise les classiques en les mettant à notre manière. Ça veut dire un bon Paris-Brest, un bon Saint-Honoré, une bonne tarte citron, un bon éclair au chocolat. Et chacun met son
grain de folie.
Son grain de folie ou sa forme. Mais on est de plus en plus classique, ouais.
C'est pas un frein à la créativité?
Non. C'est jamais un frein à la créativité parce que qu'est-ce que la créativité? La créativité aussi vient du goût. On n'est pas obligé de changer la forme, mais le goût, c'est le plus important. On mange avec les yeux, mais on déguste surtout avec le palais. Et donc c'est le goût, la créativité.
C'est un challenge de retravailler ses recettes, d'essayer
d'améliorer. Non, mais c'est hyper important parce que par exemple sur une crème au chocolat, par exemple même dans un éclair ou autre, il suffit de changer les origines et on a un éclair différent. Donc même en changeant rien qu'un chocolat, on obtient un goût et une texture différente. Donc voilà, c'est avec notre palette de produits qu'on a face à nous tous les jours, on peut changer simplement le goût. L'aspect après, c'est pas grand-chose en soi.
Et tu me disais aussi, rester simple, c'est de plus en plus compliqué.
Ça tout dépend dans les gâteaux.
Oui, je pense que tu m'as dit ça pour ça.
Ouais. Bah, en fait, parce que la simplicité, c'est pas si simple.
La
ça
simplicité
fait deux fois
apparente n'est pas simple.
Non, non,
derrière.
Mais parce que encore une fois, on est dans un milieu où les réseaux font évoluer les gâteaux et qu'on est dans, on se dit bah qui va faire le meilleur gâteau, qui va faire le plus beau, mais en fait, quand on y réfléchit bien, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tous les gens qui viennent tous les jours et nous dire que nos gâteaux sont bons. Mais c'est vrai que nous, en tant que pâtissiers, on avait ce truc un peu de compétiteur. C'est-à-dire se dire, qui va être le meilleur pâtissier? Mais on s'en fout. Réellement, on s'en fout. Maintenant, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de se dire que tous les jours, il y a une centaine de personnes qui viennent tous les jours chercher leur croissant, leur gâteau, quand je parle aussi des clients, je les fais rentrer presque dans une famille parce que le pâtissier marque une période de la vie de chacun. C'est-à-dire qu'on marque la période des anniversaires, des bûches, des communions, des mariages, même une fin de repas, un repas en famille. Donc c'est en fait on rentre dans la famille, on rentre dans la vie de chacun. Donc c'est plus important que tout le reste.
Il y a un attachement très fort souvent au pâtissier, à la pâtisserie.
Bah oui, parce qu'on a tous un souvenir d'enfance déjà sur un gâteau. Je sais pas, ça peut être le pain au chocolat, j'allais dire la chocolatine, mais bon, il y a deux appellations. Mais le pain au chocolat quand maman vient nous chercher à l'école, ou le petit pain au lait avec une barre de chocolat, ou il y a une multitude de choses quoi.
Quel est le best-seller de la maison?
L'éclair au chocolat.
Ah oui.
Et le baba au rhum.
Et quel est le secret de Storer pour rester dans la tendance? Tu me disais aussi que depuis que tu es revenu et que ça a été repris par l'équipe de la mère de famille.
Oui, on a
la notoriété de la maison s'est accentuée.
Ben c'est normal parce que si on développe la maison, elle s'accentue tout simplement. Mais maintenant, je pense pas qu'on fait on balance pas de la poudre aux yeux aux gens. En tout cas, on essaye de faire de la qualité. Et je pense que c'est ce qui fait notre notoriété maintenant aujourd'hui.
Pour la première fois, vous avez plusieurs boutiques aujourd'hui. Vous organisez comment? Vous avez la boutique historique ici.
Alors,
et
on a,
trois autres.
On a la boutique. Ouais, on a la boutique historique rue Montorgueil. On a les Galeries Lafayette Food Court. On a la rue Claire avec la mère de femme historique. Ça a été la première fusion. On a fait une deuxième fusion
à Montmartre
avec la rue Le Pic.
La rue Le Pic.
Et
oui.
Dernièrement, une création à Cambronne. Voilà.
Donc tout est tout reste fabriqué dans le
laboratoire
vous livrez les différents points de vente.
Tous les matins, on livre les points de vente. Ouais.
Et raviver. Enfin, dans tout ça, raviver les souvenirs d'enfance, c'est ça ton leitmotiv culinaire? Qu'est-ce que
je pense que c'est important.
Qu'est-ce que c'est?
Moi, c'est de marquer les esprits, vraiment d'accompagner les gens jusqu'au bout. Ça veut dire que qu'ils soient mécontents ou contents, en tout cas, on oubliera rarement un dessert. Même pour un repas, c'est la finalité. Donc c'est pour ça que, notamment quand je parlais de Jean-François Piège, je me disais toujours en fait, mais vous êtes hyper important parce que vous faites la finalité du repas en fait. La finalité d'un repas, si le dessert est raté, bah le repas est raté. Voilà. Ou alors, ça peut rattraper le salé. Ça veut dire que si l'entrée et le plat étaient moyens, mais en tout cas si le dessert est bon, le client part sur un côté moins. Côté amer de se dire bon bah au moins le dessert ça rattrapait le reste. Donc mais c'est pas par prétention que je dis ça, c'est juste simplement c'est comme ça, le dessert ça a toujours été toujours la petite
la
note de fantaisie,
ouais.
et puis même là le côté fantaisie du repas, on n'est pas obligé de prendre un dessert, mais maintenant de plus en plus les gens ont envie de prendre un dessert.
Un petit dessert à partager.
C'est ça.
Tu pâtisses encore beaucoup?
Au labo?
Oui.
Énormément.
Tous les jours?
Tous
ouais,
les jours.
Tu ne fais pas partie de ces chefs qui ne touchent plus la matière?
Maintenant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs qui ne maîtrisent plus la matière, mais en tout cas, moi, je suis tous les jours au labo avec mes équipes c'est un peu mon laboratoire de chimie, quoi.
Tu fais des essais, toi? Tu fais plus les essais?
Je fais pas des essais à long terme. Je fais des essais quand je suis déjà à la bourre. Je suis un peu toujours borderline, en fait. C'est toujours au dernier moment.
Et t'as un vrai poste ou t'es un peu bouche-trou?
Bouche-trou, c'est pas mal.
c'est vrai qu'en fait, partout.
Et ça m'arrive même de nettoyer. On est des gens comme tout le monde.
Comme les autres.
En même temps, je préfère nettoyer, moi, de me dire que je fais un petit brin de plonge. Je le fais déjà pas à la maison. Je fais un brin de plonge parce que je préfère que la personne à côté, si c'est un apprenti, un stagiaire, bah, je préfère que ce soit elle qui apprenne les gestes, ouais, plutôt que moi, ou entre guillemets, je les connais, quoi.
Ça te repose de
ça
faire la plonge?
Mais en fait, je t'assure, ça me détend. Quand mes gars me voient nettoyer, ils me disent oula, soit c'est mauvais signe, soit il a besoin de réfléchir.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
C'est une bonne question. En fait, c'est toujours très difficile de se sentir vraiment chef. Ça veut dire que je pense que cette dernière année, je me suis senti chef parce qu'on a vraiment construit quelque chose et qu'on y est arrivé. Mais sinon, à part ça, c'est très difficile de se dire vraiment chef. On a le statut, hiérarchiquement parlant. Maintenant, quand on rentre dans un labo, ou en tout cas, notamment dans le mien, la hiérarchie, elle est là, mais elle se sent pas. Ça veut dire que tout le monde est au même niveau. Donc, je me suis senti chef dans le sens où j'ai réussi, je pense, le pari de développer cette maison que j'ai toujours voulu développer. Et c'est pas fini. Voilà, je me suis senti vraiment chef, on va dire, cette année-là.
Et tu manages comment?
Je manage comme je peux. Non, mais je manage avec mes bras droits, je manage avec mes chefs de poste, je manage tous les jours en étant là avec eux, mais en fait, c'est un management, avec la force de tout le monde.
Au feeling.
Au feeling, parce que la vie est au feeling, c'est comme ça. Hein. On maîtrise pas toujours tout et qu'on s'est développé très vite, donc ça se fait vraiment. De toute façon, la pâtisserie, c'est comme ça aussi, c'est au feeling. Hein. C'est comme dans la cuisine.
T'as commencé ta carrière, on en parlait tout à l'heure, à une ère pré-Instagram, avant Instagram.
Ouais, bien avant quand même.
Ouais, ça change beaucoup, surtout dans la pâtisserie, non, aujourd'hui.
bah en fait, ça a exporté notre savoir-faire déjà dans le monde entier. Donc c'est une belle chose parce que ça nous a permis même de visionner ce qui se passe à Outre-mer. En fait, c'est on voit ce qui se passe, on apprend. En fait, avec Instagram, même moi, j'apprends. Ça veut dire que je vois un tuto même d'une ménagère qui a inventé un truc. Donc Instagram, ça nous a permis de visionner tout ça et de balancer simplement des photos et non notre vie. C'est différent de Facebook. C'est pas notre vie, c'est vraiment notre vie au travail ou en tout cas notre vie de passion. Pour moi, Insta, c'est ça. C'est pas. Il faudrait pas que ça change d'ailleurs parce que pour moi, c'est encore un réseau de passion. Et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux. Tous les gens qui me parlent, la plupart, à 90%, sont des passionnés de pâtisserie. Soit du métier, soit des gens qui sont passionnés, soit des pâtissiers à l'autre bout du monde qui ont vu une vidéo ou une photo et qui me demandent la recette. Et je trouve que c'est un milieu de partage, en fait. Maintenant, ça aide beaucoup notre métier. Ça fait avancer les choses.
C'est toi qui gères ton compte ?
Ben, je pense que tout pâtissier gère son compte. Ouais.
Et ça t'inspire, enfin, ce que tu vois, tu regardes souvent, tu réponds à tout le monde. Ça...
Alors, je réponds à tout le monde, pas à tout le monde, parce que ce serait difficile de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je prends ça pour comme une inspiration. J'ai du mal à répondre parce que je suis pas trop écriture. Moi. Déjà, j'ai du mal à envoyer des textos ou à répondre aux textos, donc.
Mais bon, en tout cas, ça te nourrit aussi. Ce que tu vois, ça te nourrit et ça.
Oui, ça me nourrit. Ouais. Ça me nourrit. Et en tout cas, j'espère que ça nourrit tout le monde aussi.
Et tu me disais aussi que t'étais qu'à 30% de ce que, enfin, vous étiez qu'à 30% de ce que vous vouliez faire. Il y a quoi dans les 70%?
Je sais pas. Moi, c'est mon pressenti. Ça veut dire que entre autres, on a toujours envie de développer. Et quand je parlais d'histoire, on a envie d'écrire et que je pense qu'on est. Il y a eu une grosse partie d'histoire parce que bon, faut savoir que Nicolas Storer a quand même inventé le baba au rhum, mais qu'il a été le pâtissier du roi Louis XV et qu'il a fait une multitude de choses. Après, c'est
moi, je avant le connais, d'ouvrir sa boutique.
Malheureusement, je le connais pas personnellement. J'aurais tellement aimé, mais tellement aimé qu'il se retrouve avec nous à parler. Mais bon, même si le rhum conserve, il conserve pas assez bien. Donc oui, je pense qu'on a encore plein de choses à faire et de développer cette maison et de la faire connaître à travers le monde parce que c'est l'histoire de la France, c'est notre histoire et que
l'histoire de la pâtisserie française,
ouais, c'est l'histoire de la pâtisserie française, ouais. Et c'est notre histoire et c'est notre but. Peut-être qu'un jour on parlera à l'école de la pâtisserie Storer, j'en sais rien.
Tu vas plonger dans les archives de temps en temps?
Oui, après il y a eu un petit bouquin qui a été fait il y a quelques années et je pense que nous on va essayer d'écrire une histoire sur Storer.
Merci, on arrive à la fin et je vais te demander encore une autre tradition, je vais te demander une recette facile à faire à la maison, s'il te plaît.
Une recette facile? Bon, allez, une recette de meringue, c'est facile la meringue.
C'est facile.
Ouais, alors je donne la recette de la pavlova parce que c'est une meringue crémeuse, donc je fais des quantités plus petites, donc on va dire 200 grammes de blanc frais. 200 grammes de sucre semoule et 100 grammes de sucre glace. On met tout ensemble, on foisonne et on cuit à 110 pendant 90 minutes.
Et tu les étales,
tu les mets à la poche. Tu les mets à la poche, tu fais ce que tu veux, tu les mets à la palette, tu fais ce que t'as envie.
Cuisson au four et c'est parti.
90 minutes pendant 100, à 110 degrés.
Bon, bah, merci, bon, voilà. Jeffrey.
Merci. Merci.
Vous venez d'écouter la retransmission du 5e AP Talk avec Jeffrey Cagne de la pâtisserie Storer. Vous pouvez goûter ces délicieuses pâtisseries au comptoir du Food Court des Galeries Lafayette Champs-Élysées, dans la boutique historique de la rue Montorgueil ou dans les nouvelles boutiques Storer à la mère de famille. Toutes les adresses sont à retrouver sur storer.fr. N'oubliez pas, le prochain live aura lieu le mercredi 12 février à 19h15 avec Quentin Francis Guénieux et Pierre Tachon. Le duo à l'origine des créations de la manufacture du grand chef multi-étoilé Alain Ducasse. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Studio Ochenta, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.